Bonjour, bienvenue sur Vlan. Je suis Grégory Pouy et j'essaie à travers ce podcast de mieux comprendre comment la société évolue dans le cadre de la révolution industrielle que nous traversons. En début d'été, j'ai demandé sur le compte Instagram du podcast, Vlan Podcast tout collé, si vous ne le suivez pas, bah c'est pas bien, si vous aviez envie d'entendre quelqu'un en particulier. Il y a Théophile Bélivier qui m'a demandé si je pouvais recevoir Idriss Aberkane. Alors clairement, je ne le connaissais pas, juste de réputation. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire et voilà, vous avez l'épisode avec Idriss. Donc si vous avez des envies vous aussi, vous me laissez un message par Twitter ou par Instagram et je ferai ce que je peux pour recevoir la personne. Alors Idriss, il est hyper connu pour le bouquin qu'il a sorti qui s'appelait Libérez votre cerveau. Il a eu beaucoup de médias aussi et il sort un bouquin en octobre qui s'appelle L'âge de la connaissance, qui est un traité d'écologie positive. Et justement, c'est de ça dont on va parler, d'écologie, de biomimétisme, mais aussi de politique, de décroissance et même d'éducation. Donc surtout, écoutez bien jusqu'à la fin, c'est là où on parle d'éducation. Et en fait, on a enregistré le lendemain de la démission de Nicolas Hulot, donc c'était juste un timing parfait. Alors sans plus attendre, et comme d'hab, allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous, je suis donc avec Idriss Aberkane. Alors Idriss, il est extrêmement connu pour son bouquin sur l'économie de la connaissance.
Et oui, qui sort là, hein, qui sort à l'instant, qui va sortir le 13 septembre.
Donc voilà, et en fait tu fais beaucoup beaucoup de choses différentes, en particulier autour du biomimétisme, et c'est le sujet qu'on va aborder. Donc,
tout à fait.
Alors je vais pas tout citer parce qu'il y a plein de trucs, mais tu es présent de la fondation Bioniria, tu as créé une société qui s'appelle Bionix qui fait ça aussi, une autre société qui s'appelle Creas qui est plutôt sur les logiciels, tu es aussi directeur de la recherche sur Aurea Biotechnologie.
Aurea Biotechnologie.
Et la première question que j'ai, puisque tu as fait ce bouquin sur l'économie de la connaissance, tu as fait énormément de médias sur le sujet, c'est quoi le lien entre économie de la connaissance et biomimétisme? Comment t'en arrives là en fait?
Alors effectivement, l'idée de plonger le biomimétisme dans l'économie de la connaissance, c'était ma contribution au sujet. La façon dont je vois les choses, c'est que la connaissance, ça vaut plus cher que le pétrole. Bon, ça c'est un fait, hein, c'est pas une opinion. C'est-à-dire, tu regardes des Facebook, Apple là qui est passé à 1 trillion de dollars de valorisation boursière, les coquins, hein, donc ils valent 1000 milliards, hein, donc ça c'est
pas mal.
C'est du méga lourd, et ils vendent de la connaissance. Alors, bon, les gens vont dire, bah non, ils vendent des appareils, et ils auront raison, mais le prix de ces appareils, il est très supérieur au prix des matières premières. Les pays qui vendent les matières premières, ils font pas d'argent, tu vois. Apple fait de l'argent parce qu'ils injectent de la connaissance, qui inclut le marketing, hein, qui inclut l'image de marque, la psychologie, etc. Et ce faisant, bah, mais la psychologie, c'est de la connaissance. Et ce qu'Apple, leur grande spécialité, par exemple, c'est de rendre la technologie mignonne. Tu vois, ça, c'est vraiment la spécialité d'Apple, c'est le coup des bords arrondis, etc. Mmh. C'est de faire en sorte que la techno soit mignonne, qu'elle dise n'aie pas peur. Ça, c'est de la connaissance. Mmh. Quand tu injectes de la connaissance dans la matière, quelle qu'elle soit, même un diamant, tu vois. Un diamant, c'est son prix vient de la connaissance. Tu vas dire, non, non, un diamant, c'est rare. Pas du tout. Les diamants sont beaucoup moins rares qu'on le croit. Ne serait-ce qu'en Sibérie, par exemple, il y a une énorme mine de diamants. Les réserves de diamants mondiales sont très, très supérieures à ce qui est sur le marché. Ce qui fait le prix d'un diamant, c'est la taille, le marketing, etc. Même là, c'est de la connaissance. Donc, petit 1, la connaissance, ça vaut plus cher que le pétrole. Ça, c'est vraiment un fait. Et petit 2, bah, la nature, c'est le plus gros gisement de connaissances sur Terre, en fait. Nos bibliothèques, nos universités, c'est que dalle à côté de la nature. La nature, ça fait 4 milliards d'années qu'elle stocke de la connaissance, qu'elle la stocke, qu'elle l'applique. Et donc, si tu cherches un baril de connaissances, c'est dans la nature qu'il faut aller.
Mais alors, du coup, quand on parle de biomimétisme, je pense que le premier exemple qui vient... Donc, tu peux peut-être expliquer en deux secondes ce que c'est, peut-être que tu...
Ah, donc, le biomimétisme, c'est juste lire la nature comme source de connaissances.
Ouais,
donc, c'est s'inspirer de la nature pour innover. Et vraiment, tu peux considérer que la nature, elle a deux dimensions. T'as la dimension matérielle, et t'as la dimension immatériel, exactement comme dans un livre en fait. Dans un livre, tu peux voir la dimension physique. Un livre, c'est un poids, tu peux t'en servir pour caler une armoire, mais c'est pas la meilleure utilisation possible d'un livre. Et un livre, il a des lettres qui sont sa dimension immatérielle. Bon, comme nous on sait lire, on sait qu'un livre, c'est sa dimension immatérielle qui compte. La nature, on savait pas la lire. Donc on s'était pas rendu compte que sa dimension immatérielle était la plus importante. Mais bon, évidemment, nous on a un cerveau de primate, c'est-à-dire qu'on voit d'abord le monde tangible parce que c'est le monde qu'on peut manger ou qui peut nous manger. Donc l'évolution, elle a d'abord donné notre cerveau d'une capacité attentionnelle pour la dimension matérielle tangible du monde. N'empêche que c'est la dimension immatérielle du monde qui est la plus intéressante. Et ça, ce qui est marrant, c'est que c'est les Indiens qui le savaient. Et donc quand tu exploites la nature d'une façon immatérielle, bah déjà tu la détruis plus, mais en plus tu fais encore plus d'argent.
Parce que c'est ça le truc, quand on parle quand on pense biomimétisme, je pense que le premier exemple qui vient à la tête de tout le monde, c'est le Velcro.
Tu vois, ouais, exactement.
Qui a été créé,
ouais.
Voilà. Mais le Velcro, c'est du plastique, donc du coup, c'est pas vraiment biomimétisme.
Si,
quand
si,
t'es
si.
Dans le bio, t'es aussi dans un modèle où tu recycles, ça fonctionne tout seul.
Il faut monter les marches étape par étape. C'est-à-dire qu'effectivement, tu veux dire, merde, le Velcro, c'est du plastique, et t'auras raison, parce que le Velcro, ça date quand même des années 50. Donc, bon. Mais quand, dans l'innovation, il faut monter les marches étape par étape. Effectivement, le biomimétisme terminal, c'est quand tu fais tout comme la nature, y compris l'utilisation des déchets. Ça, c'est vrai.
Ça,
le biomimétisme de niveau 3, selon Janine Benyus, qui est un peu la mère moderne du biomimétisme, c'est quand effectivement, même dans les procédés industriels, tu recycles tout. Mais ça n'empêche pas de faire des petites innovations, étape par étape, où déjà tu commences à copier la nature. Par exemple, ce mec qui a inventé des gants inspirés des pattes du gecko, ce petit lézard qui marche sur les murs. Et donc ce type s'appelle Mark Kutkowski à Stanford. Et il a fait des petits gants qui permettent aux forces spéciales de grimper au mur, mais qui permettent aussi, enfin qui ont inspiré aussi un robot d'entretien de la Station Spatiale Internationale. Donc ouais, le biomimétisme, t'en trouves un peu partout. La Tour Eiffel, hein, très peu de gens savent que la Tour Eiffel est bio-inspirée, mais la Tour Eiffel est inspirée de l'os humain. Elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Si tu prends le cylindre d'air qui contient la Tour Eiffel, en fait, il est plus lourd à 25 degrés que la tour elle-même. Parce que l'ingénieur en chef de Eiffel, Koechlin, s'était inspiré de l'os humain. Il avait étudié à l'école polytechnique de Zurich, hein, qui était déjà la meilleure école polytechnique au monde, et auprès de Kuhlmann, qui était un grand architecte spécialisé dans l'os humain. Et ce faisant, il a pu faire cette structure qui a servi aussi d'inspiration, bien sûr, au squelette de la Statue de la Liberté et à toutes les antennes télé Berbone modernes. Donc ouais, le biomimétisme, il y en a un peu partout, en fait.
D'accord.
Ouais.
C'est marrant parce que je ne connaissais pas cette histoire sur la...
Ouais,
parce que la Tour Eiffel, à la base, elle devait être détruite. C'était juste
elle devait être détruite, c'est parce qu'elle a servi d'antenne relais pendant la Première Guerre mondiale. Tu as Guy de Maupassant qui avait fait une pétition pour la faire démonter, hein, comme toute grande innovation.
Et ça, les gens avaient peur, quoi, surtout qu'elle se tombe.
Bah, qu'elle tombe, qu'elle attire la foudre, ce qu'elle faisait très bien, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, qu'elle défigure Paris, parce que c'était
bien
ça
sûr.
Le sujet. Je te dis, cette pétition avec Guy de Maupassant qui disait, voilà, ça, faut arrêter les conneries, c'est moche, etc. Ouais, la France, ça a toujours été un peu comme ça avec son immigration. Je veux dire, tu regardes un Descartes qui était exilé à Amsterdam, Jean-Jacques Rousseau, etc., Genève, Henri Guillemin à Neuchâtel, t'as eu toute une liste ininterrompue de situations où la France a généralement massacré sa propre innovation. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
Et alors du coup, t'as d'autres exemples de biomimétisme. Je me souviens avoir vu une vidéo de toi, je crois, où tu parlais des dauphins, la manière dont ils pêchaient, par exemple.
Ouais, la manière dont ils pêchent avec des filets de bulles, hein, ça c'est vraiment très intelligent, parce que en fait, du coup, ça laisse aucun déchet, parce que c'est vraiment, ils font remonter des bulles à la surface, et ça va à la fois canaliser et déstabiliser les poissons, donc ça va leur permettre de les pêcher plus facilement. Et Gunther Pauli a mené une étude sur le sujet pour faire des bateaux qui pêcheraient de la même façon, pour qu'on ait aucun filet de pêche, tu vois, qu'on arrête de contribuer à cette nébuleuse de plastique dans le Pacifique. Et ça serait pas mal de faire ça. Donc t'as ça. Dans les dauphins, t'as plein de trucs. Hein. T'as bien sûr leur hydrodynamisme. Tu as les gammes de fréquences avec lesquelles ils communiquent. Tu as leur utilisation d'outils. Les dauphins utilisent des éponges pour. À la fois, ils en offrent à leur conquête féminine. Quand ils veulent draguer une femelle, ils offrent des éponges. Et parfois, ils sont tellement excités qu'ils leur balancent l'éponge à la tête. D'ailleurs, c'est assez marrant. Et en même temps, les dauphins ont un système de climatisation très très sophistiqué dans leur rostre, leur lard. En français, on dit lard, en anglais, c'est blubber. Leur graisse dans leur rostre, en fait, peut devenir liquide quand ils sont vivants, quoi. Ils peuvent passer de l'état solide à l'état liquide, et ça leur permet de se climatiser. Donc, les dauphins, c'est toujours très intéressant en biomimétisme.
Mais alors, du coup, comment ça se fait? J'ai plein de questions, mais comment ça se fait que les industriels ne se soient pas intéressés avant? Je veux dire, en dehors du Velcro.
En fait, ils s'y sont intéressés. Il y avait même des départements qui enseignaient la bionique avant la Première Guerre mondiale en Allemagne.
Ouais.
Et l'Allemagne était un grand spécialiste de ça. Donc, tu avais déjà des chaires de bionique. Et tu avais, en architecture, bien entendu, hein, tous les architectes comme Jacques Rougerie, et que je salue au passage, et puis bien sûr un de ses élèves, ou je dirais stagiaire pour être plus exact, Vincent Calbeau, qui est dans un style très différent, mais qui est tout aussi brillant, eux, voilà, pratiquent l'architecture bionique depuis très longtemps, avec Calatrava, etc. Et puis comment il s'appelle, Fry Otto, et puis Buckminster Fuller, qui a inspiré, Buckminster Fuller, c'était le grand maître de Norman Foster. Hein. Tous ces gens-là, donc en architecture, c'était déjà un acquis. Simplement, en industrie, effectivement, le mot n'était pas présent, quoi. Et c'était pas encore dans tous les esprits. Maintenant, ça devient effectivement plus mainstream parce que il y a pas mal de magazines qui en parlent et d'émissions, et ça, c'est très très bien. Et puis maintenant, le sujet, évidemment, c'est de rattacher les wagons du biomimétisme avec le développement durable. En particulier, c'est-à-dire vraiment de dire, attendez, la nature, en fait, il ne faut pas l'exploiter comme source de matière, il faut l'exploiter comme source de connaissances. Je ne sais plus qui c'est qui a dit, brûler la forêt amazonienne pour, par exemple, planter du soja ou pour faire du profit court terme, ça revient à brûler des chefs-d'œuvre de la Renaissance pour se faire cuire un steak. Meilleure façon d'utiliser ce patrimoine qu'on a. Il y a moyen, j'oppose pas le concept de croissance. Par exemple, tu as quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Pierre Rabhi, et beaucoup de gens me disaient, mais en fait, tu as l'air opposé à Pierre Rabhi, puisque lui, il parle de décroissance. Je dis, pas du tout. Alors que moi, je parle de croissance infinie.
On va y venir à la décroissance.
Moi, je parle de croissance infinie, donc ça fait bizarre, mais en fait, je parle de croissance immatérielle, uniquement.
Des connaissances.
Voilà, ou de la sagesse qui est encore au-dessus, tu vois. En fait, Pierre Rabhi, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est précisément de cette croissance-là qu'il parle. Alors lui, il n'a aucun problème à te parler de croissance infinie si c'est la croissance de la sagesse.
Ah bah, bien
sûr. Il te dit, faisons croître la sagesse indéfiniment. Je dis, très bien, Pierre.
Mais alors, tu vois, tu parlais de Gunther Pauli tout à l'heure, et Gunther Pauli, je crois que c'est sur Thinkerview, il dit, en fait, il y a une levée de bouclier des industriels quand il s'agit de biomimétisme. Ils ne sont pas tous d'accord.
Ah oui, mais alors, si tu veux, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as une guerre. Enfin, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, ça fait psychologiquement, cette guerre existe depuis au moins 200 ans. Ce qui est dramatique d'ailleurs, puisque encore une fois, le mot économie venait au départ de écologie. Enfin, c'est plutôt écologie qui vient d'économie. Les premiers économistes s'intéressaient à la nature. Mais depuis 200-250 ans, tu as une idée sous-jacente qui est que tu ne peux pas avoir, en fait, de l'argent, de la prospérité de la nature. C'est pas possible. Mmh. Et c'est une théorie, si tu veux, qui est tellement étayée par l'expérience de tous les jours, hein. C'est-à-dire, bon, bah,
c'est
regarde,
empirique, quoi.
Ouais, exactement. Mon fils, à la campagne, t'auras pas d'argent. Si tu restes à la campagne, il y a pas d'argent dans les campagnes. L'emploi, il est dans les villes. Donc là où il y a de l'emploi, il y a pas de nature, hein. C'est la ville. Et là où il y a de la campagne, de la nature, il y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et cette opposition,
il y en a moins, en tout cas. Il y a des robots qui.
Ouais, mais il y en a quasiment pas. Je veux dire, tu demandes à un Africain où est-ce qu'il est ton avenir. Il dit, bah, il faut que je monte à la capitale.
Ouais.
Et ça, si tu veux, ça fait que maintenant, concrètement, on ne discute même pas le sujet. Un industriel, il est là, mec, soit t'as la nature, soit t'as l'emploi, t'auras pas les deux. Dans mon livre, j'appelle ça la guerre vert de gris. C'est vraiment une guerre entre les verts et les gris. Donc t'as d'un côté les verts, hein, au-delà de la notion politique de vert, hein, c'est juste d'un côté t'as ceux qui disent je suis le partisan de l'environnement, mais eux ils sont parfaitement acquis à l'idée que si t'es dans ce camp-là, tu peux pas être dans le camp de l'emploi. Et t'as les autres qui disent moi je suis dans le camp de l'emploi ou de la croissance ou ce que tu veux. Et dans ce cas-là, on pourra pas avoir de nature. Et en fait, cette guerre, elle est totalement idiote. Mais vraiment, elle est totalement idiote. Les deux doivent travailler ensemble. Le problème, c'est qu'effectivement, quand un mec comme Gunther, il va voir des industriels, il leur dit « Viens, on préserve la nature. » L'industriel, il dit « Espèce de connard, moi, je suis pas de ce bord-là. » Et quand il va voir un écologiste et qu'il lui dit « Viens, on va faire de l'argent. » Il dit « Cette espèce de connard, moi, je suis pas de ce bord-là non plus. » Alors qu'en fait, on peut faire de l'argent avec la nature sans la détruire. C'est exactement de la même façon qu'on peut faire de l'argent avec un livre sans le brûler. La meilleure façon de faire de l'argent avec un livre, c'est certainement pas de le brûler, c'est de le lire. Et c'est même pas de le vendre, c'est de le louer. La nature, il faut la louer, faut pas la vendre. La forêt amazonienne...
On est quand même très mauvais à faire ça.
Hein. Ah, on est naze, bien sûr, mais c'est parce qu'on savait pas qu'on pouvait le faire. Pour commencer, maintenant, on sait pas comment le faire, enfin ça commence. Par exemple, la forêt amazonienne, encore une fois, faut la louer. Faut surtout pas la vendre, faut la louer.
Mais est-ce que t'as pas l'association... Parce que, bon, là, il y a... Aujourd'hui, en tout cas, Nicolas Hulot a acquitté son poste. Enfin, j'imagine que tu as suivi l'information. Moi, j'ai la sensation que ça doit être un mouvement qui doit être global. Tu ne peux pas le faire au niveau national, ce truc.
Alors, pour moi, les États sont assez... même si, bon, ma fondation conseille des États, hein, ça n'empêche pas, mais la société civile, oui, c'est souvent quand même de l'axe à part, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient juste informés. Si tu as une majorité de gens qui ont parfaitement compris... Ces deux principes de base, que petit 1, la connaissance vaut plus cher que le pétrole, vraiment, c'est vrai. Et que petit 2, la nature est le premier gisement de savoir sur Terre, eh ben, dans ce cas-là, tu sauras comment exploiter ta biodiversité, comment faire de l'argent et de l'emploi avec ta biodiversité sans la détruire.
Mais ça doit être... Parce qu'on met beaucoup la pression sur les individus, tu vois, sur la voiture, sur jeter des mégots par terre, sur prendre des douches à telle heure ou laver son linge à telle heure. Enfin, je veux dire, des trucs de base, trier ses déchets, enfin... tu vois, la vie de tous les jours. Quoi.
Bah, ça, c'est l'écologie corvée, si tu veux. Un des problèmes de l'écologie, c'est qu'elle est souvent présentée comme une corvée. Gunther Pauli, une de ses premières contributions, c'était de montrer que l'écologie pouvait être fun, en fait. Exactement de la même façon, tu vois, tu prends par exemple la marque Tesla. Alors, la marque Tesla, on pourrait évidemment discuter des heures. Est-ce écolo, est-ce pas écolo,
mais comment ils produisent l'électricité.
Voilà, mais sauf qu'il y a quand même un fait inaliénable sur Tesla, si tu veux, c'est que ça n'émet pas en ville. Bon, et c'est en ville que tu as le plus d'habitants par
mètre. Mais ça déporte un petit peu la pollution.
Oui, mais si tu veux, cette émission, elle n'est pas à hauteur de la bouche des enfants, ce qui est quand même déjà un vrai plus. Et puis, bon, c'est des bagnoles qui ont moins de pièces, etc. Mais d'un point de vue purement psychologique, la marque Tesla, elle est partie d'une stratégie managériale qui est très intelligente, qui était de dire, je vais faire de l'électrique qui ne soit pas une corvée, je vais faire de l'électrique sexy, je vais faire des supercars, il y aura le Roadster, etc. Je vais faire de l'électrique qu'on a envie de conduire. Parce que
un peu avant, comme Apple, t'en parlais tout à
l'heure. Exactement. Avant, tu étais dans une boîte. Tu filais une bagnole électrique à quelqu'un, c'était une punition. Tu disais à quelqu'un, ta voiture de fonction sera électrique. Tu fais, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Moi, je voulais une berline allemande au départ. Non, t'auras un pot d'yaourt électrique à la combe. Et là, d'un coup, avoir une Tesla. Il se trouve que j'utilise des Tesla pour mes boîtes en Suisse, hein, justement. Et c'est devenu un cadeau. C'est devenu une récompense. L'écologie, pendant très longtemps, c'était punitif. C'était regardez, là, flagellez-vous. Etc. Et puis des gens comme Hélène MacArthur et puis Fridtjof Capra. Et Munoz, Paolo Lugari, puis bien sûr Gunther Pauli sont arrivés, et puis Jeannine Bagnès, et on dit non, l'écologie, c'est en fait, tu vas voir, ça va être agréable, ça va être fun. Alors, Gunther Pauli, le traitement des déchets, pour lui, c'est un jeu. C'est ce que j'appelle dans mes travaux Game of Waste, tu vois. Et du coup, ça fait que, parce que une corvée, tu vois, ça capte pas l'attention. Hein.
Alors, ça n'en vient à personne. Hein.
Bah voilà, et le problème, c'est que les déchets.
Personne n'a envie de changer ses habitudes de
vie. La matière première dont on a besoin pour régler les déchets, c'est l'attention humaine. Quand tu donnes de l'attention humaine à un déchet, tu le résous, en fait. Et il faut noyer nos déchets dans l'attention. C'est la première observation de l'économie de la connaissance, c'est quand tu donnes à un déchet de l'attention et du temps, tu tends à le résoudre. Et même un déchet nucléaire, hein, même des déchets très graves.
Ce que j'allais dire, alors, du coup, concrètement.
Concrètement, l'université de Bristol a mis au point des batteries à base de carbone 14 radioactif qui est tiré des barres de graphite qui servent de modérateurs dans les centrales nucléaires. Et ces batteries peuvent émettre un courant électrique pendant 4500 ans. Et ce sont des diamants. En fait, on transforme ce carbone en diamant industriel, ce qu'on sait faire depuis assez longtemps. Et ce sont des diamants qui émettent un ampérage pendant 4500 ans. Donc même un déchet aussi grave que celui-là, un déchet radioactif avec une demi-vie de 4500 ans, eh bien, on considère en sûreté nucléaire que c'est au bout de 5 demi-vies que tu n'as plus de source. Donc ça te fait quand même du 5 fois 4500 ans de pollution, d'impact environnemental. C'était très très grave. Bah, aujourd'hui, on sait vraiment fabriquer des produits vendables qui ont une grande valeur avec ces déchets qui sont parmi les plus graves sur Terre. Donc il n'y a pas un seul déchet qui ne puisse pas être résolu si on lui donne la bonne quantité d'attention et de temps. Simplement, nos déchets, on n'a pas envie de les regarder. Hein. Tu prends même tes ordures, tu les mets dans un sac opaque.
Voire tu les jettes dans la mer.
Voilà, voire tu les jettes. Bah, avant, on les enterrait effectivement dans la terre ou dans la mer parce que la terre ou la mer était infinie pour nous, puis maintenant la terre et la mer sont plus infinies, ce qui est tant mieux d'ailleurs. Mais la seule chose qui soit infinie, justement, c'est la connaissance. Et la connaissance potentielle est infinie, et donc tu peux tout à fait jeter tes déchets dans la connaissance. Mais le problème, donc, c'est que nos déchets ne captent pas l'attention. Nos déchets, c'est des corvées. Encore une fois, tes ordures, tu les mets dans un sac, tu le fermes, tu regardes surtout pas dedans, personne n'a envie de mater ses poubelles le samedi soir. Et au contraire, hein, c'est en regardant nos poubelles davantage qu'on va pouvoir, en donnant de l'attention et du temps. Le tri, c'est un exemple. En triant, tu donnes de l'attention et du temps à tes déchets. Mais au-delà de ça.
Même réutiliser tes déchets, tu vois.
Voilà.
Les bananes, c'est vachement mieux pour les roses.
Exactement. Ça, c'est donner de l'attention et du temps. Donc, en fait, on peut. La totalité de nos déchets sont réutilisables. Hein, même les pires déchets, j'insiste, même les déchets nucléaires. Mais pour l'instant, l'écologie corvée n'est pas efficace.
Alors, cette mer de plastique, je veux dire, elle existe quand même, cette mer de plastique.
Bien sûr, mais pourquoi elle existe? Parce qu'on n'a absolument pas donné d'attention et de temps à ces plastiques. On les a balancés comme des cons dans l'océan. On s'en est débarrassé. C'est précisément des déchets qui n'ont été munis d'aucune attention et d'aucun temps humain.
Mais qui doit porter attention à ça? Parce
alors,
que...
il faut être pragmatique, il ne faut pas se poser la question de savoir qui mérite de porter son
pas
attention.
Pas qui mérite, c'est surtout qui va le faire. Quoi.
Voilà, mais qui, non, mais qui va le faire d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue punitif ou d'un point de vue, oh là là, c'est toi qui l'as produit, c'est à toi. Il faut être le plus pragmatique possible. Alors, pour moi, ceux qui doivent le faire, c'est les plus passionnés. Ça doit être spontané, parce que l'attention et le temps, ça ne se donne pas par corvée, hein, ça mm-hmm. se donne spontanément. Donc des gens comme Gunter Pauli ou comme mm-hmm. Paolo Lugari, bah, c'est des gens qui ont trouvé leur vocation à ça, hein, qui se sont dit... Ça va être fun, ça va m'exciter de prendre un truc dont personne ne veut et d'essayer d'en faire quelque chose que, dont tout le monde veut. Et en faisant ça, effectivement, ils ont changé le monde. Donc pour moi, il n'y a pas de... Il ne faut pas centraliser, il ne faut pas punir les gens en disant « Tiens, et toi, tu vas t'occuper de ce déchet. » Il faut laisser, au contraire, les écopreneurs s'emparer de ces sujets et il y en a de plus en plus qui le font.
D'accord. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de Pierre Rabhi, tu es passé ici sur Thinkerview, qui est quand même... un podcast moi que j'adore mais qui est très sur la collapsologie. Toi, du coup tu t'inscris en faux sur
ils
la collapsologie.
Ils sont pas très sur la attention la collapsologie, il y en a plein, hein. C'est il y a pas une collapsologie.
Voilà, la décroissance on va dire.
Alors. Même tu as Jared Diamond qui oui. est donc un des pères de la collapsologie et les collapsologues français sont pas tous du même point de vue que
non,
Jared Diamond.
Ouais.
T'avais Michael Rupert, en fait, l'immense majorité des collapsologues francophones sont à rapprocher de la pensée de Michael Rupert. Donc Michael Rupert, qui était un adepte du Peak Oil, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup lu et dont j'aimais beaucoup les travaux, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Bon, le pauvre homme a mis fin à ses jours, il y a une dizaine d'années, mais ça n'empêche pas que son documentaire Collapse était particulièrement intéressant. Et Michael Rupert s'est effectivement basé sur l'épuisement des énergies fossiles et des sources fossiles. Alors d'une part, en fait, hein, bon, on continue à trouver des gisements de pétrole. Hein, le pic pétrolier n'est pas du tout arrivé.
C'est le coût d'extraction qui change.
Il est loin d'être arrivé. Tu as évidemment la très très controversée théorie abiogénique sur l'origine pétrolière, hein, qui est une théorie russe selon laquelle il existerait des gisements de pétrole qui ne seraient pas fossiles, mais qui seraient simplement la compression de méthane purement minéral, d'origine purement minérale, en hydrocarbures complexes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais le vrai sujet, si tu veux, selon moi, hein, c'est que Michael Rupert a été beaucoup trop alarmiste et qu'il s'est trompé, même s'il a dit des choses fabuleusement intéressantes. Son tout penseur se trompe. Hein, la pensée humaine, n'est qu'une succession d'erreurs. Donc ça n'empêche pas que la pensée de Michael Rupert était super intéressante et une grande, grande contribution au débat. Mais effectivement, je ne suis pas d'accord avec les conclusions, si tu veux, de Rupert, qui est qu'on va tous crever et qu'il n'y aura pas de substitut à la
c'est pas le seul à le dire.
Au pétrole. Oui, mais il y a tout un tas de gens.
C'est pas qu'une question de pétrole, c'est aussi une question de mode de vie et que comme personne ne veut faire l'effort, ben, à la fin.
Oui, mais encore une fois, c'est malthusien. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris en compte les modifications liées au savoir. Par exemple, bon, tu prends l'argument malthusien de base, qui était l'origine de l'argument du Club de Rome. Qui était, mon Dieu, on a une croissance géométrique de la population et on va tous crever parce que voilà. Bon. Et en fait, aujourd'hui, quand tu regardes, les pays qui ont versé dans l'argument malthusien, comme la Chine, qui a versé dedans d'un point de vue gouvernemental avec la politique de l'enfant unique, aujourd'hui sont en catastrophe démographique. La Chine est en catastrophe démographique et le Japon encore plus.
Ah, Japon, l'Italie,
oui, mais alors l'Italie, ils auront toujours l'immigration, même si politiquement, ils ne sont pas prêts. Enfin, si, bon, ils sont plus prêts que le Japon, mine de rien. Le Japon n'est pas du tout prêt à voir des Philippins arriver,
vraiment,
donc c'est
non.
aussi pour ça qu'ils investissent à ce point-là dans la robotique, parce que tu sais qu'au Japon, par exemple, l'empereur, la maison de l'empereur, pas l'empereur lui-même, te remet une coupe en argent quand tu as atteint 100 ans. Et ben, le Japon a dû trouver une solution pour fabriquer cette coupe à bas coût, parce qu'en fait, il y avait trop de centenaires au Japon. Donc c'est un vrai problème, la pyramide des âges au Japon, et ça va être un problème, la pyramide des âges dans toute l'Asie. Et le seul continent qui n'ait pas encore fait sa transition démographique, c'est l'Afrique, mais ils sont en train de la faire. Tu vois l'émergence des classes moyennes. En Afrique de l'Ouest, c'est un très bel exemple de ça. Donc, tout ça pour dire que d'une part, la problématique de la taille de la population humaine, elle est en train de se régler, là, de la façon la plus naturelle du monde. Effectivement, les émissions à l'américaine pour la terre entière, c'est pas possible. Mais
la consommation de viande, ou la production de
alors,
viande.
Alors, de viande, c'est aussi un débat. Tu sais que par exemple, au Bénin, ils cultivent des mouches. Voilà. Au Bénin, ils utilisent leurs déchets pour faire une grande serre où ils vont cultiver des mouches. Et avec les vers, ils vont nourrir des poissons et des poules. L'Afrique gagnerait énormément à augmenter en fait sa production de volaille. Pas bien sûr production intensive, mais sa production extensive de volaille, puisque ça réduit les risques paludaires. Voilà. Mm-hmm. Les moustiques vecteurs du palu détestent l'odeur des poules. Et donc, même d'accord. la fondation Bill et Melinda Gates recommande l'élevage villageois de poules, ouais. Entre autres, etc. Bon, après, donc, sur la consommation de viande, bien sûr, tu as la viande synthétique qui se développe. Tu as l'agriculture 4D, hein, qui est quand même. Aujourd'hui, nos méthodes agricoles sont passablement pourries. Il hein, faut se dire les choses, elles sont en deux dimensions. C'est-à-dire, la profondeur de la terre n'est même pas prise en compte. Aujourd'hui, la terre est une éponge stérilisée chimiquement dans laquelle on balance des intrants et puis des graines. Eh bien, tu as aujourd'hui l'agriculture 4D, on pourrait cultiver les océans. Sur le plan de la pêche, on continue à pêcher des femelles gravides, ce qui est complètement débile. Sur le plan de l'élevage bovin, on ne va jamais abattre une femelle qui est gestante. Eh bien, sur le plan des océans, on abat des femelles gestantes.
Parce qu'on ne sait pas faire le tri.
Ça s'appelle de la connaissance, du coup. Tu vois. Et quand tu injectes de la connaissance dans tes problèmes, en général, tu les résous. Et donc là même, effectivement, le fait qu'on ne sache pas faire le tri, c'est un problème de connaissance. Et donc, on a oublié totalement, dans la collapsologie, hein, la dimension extrêmement difficile à prévoir de la connaissance. Que va produire l'injection de connaissances dans un territoire ? Et c'était le cas des Mayas, c'était le cas de la création du Machu Picchu, qui était autosuffisant sur le plan agricole, alors que c'était une petite ville en autarcie, en pleine montagne, précisément, parce qu'ils avaient développé des cultures en terrasse, ils avaient sélectionné des cultivars qui pouvaient survivre à ces altitudes. Et ça, c'est de la connaissance. Donc en fait, on sous-estime totalement dans la collapsologie, on prolonge les courbes, hein, comme d'habitude, et le prolongement de courbes, on sait que c'est pas une méthode pour prédire le futur. Donc il est possible, la collapsologie a un élément bien entendu autoréalisateur, c'est-à-dire que oui, si on se convainc tous qu'il n'y a pas d'autre solution que de prolonger les courbes, on va plonger droit là-dedans. Mais il y a d'autres solutions, et quand tu vois ce qui a été fait notamment avec les Coréens qui cultivent des algues, qui font de l'agriculture donc en trois dimensions et même en quatre dimensions, en incluant la dimension temps sur la qualité de l'eau. Je prends un exemple très concret. Bon, l'agriculture 4D, en fait, elle existe depuis l'Antiquité. Elle était recommandée par Magon, déjà le grand agronome tunisien, enfin phénicien, punique, carthaginois. Magon, donc cet agronome, recommandait de prendre en compte, bien entendu, la profondeur de l'enracinement quand tu cultivais quelque chose. Donc, évidemment, avec une sélection de plantes pérennes, surtout, hein, éviter les plantes annuelles qu'on doit ressemer chaque année. L'économie méditerranéenne s'est concentrée là-dessus. Hein, les oliviers, les vignes, ça, ce sont des plantes pérennes qui sont là pour très longtemps. Quand elles s'implantent longtemps dans le sol, elles augmentent la valeur économique. Typiquement, Bollinger ne ferait pas autant d'argent sur sa cuvée vieille vigne française si bah, les vieilles vignes ne valaient pas aussi cher. Pareil pour Krug avec leur légendaire Claude Ambonnet à 2000 balles la bouteille. Écoute, pour être honnête, j'en ai jamais goûté.
C'était mon client.
Ah, t'as eu Krug comme client. Ouais. Et bah oui, les Krug, les coquins, ils ont le Claude Ambonnet, si ma mémoire est bonne, est plus petit qu'un terrain de foot. Hein, ils l'ont pas récolté pendant 20 ans. Et puis. D'un coup, ils ont fait un des meilleurs champagnes au monde avec, hein, qui est un blanc de noir de prestige. Eh bien, parce que justement, quand tu prends en compte l'implantation, la valeur patrimoniale de ta terre, et ça, c'est la quatrième dimension. Donc, les trois dimensions, c'est d'abord les deux dimensions de la surface, ensuite la troisième dimension de la profondeur du sol, et la quatrième dimension, c'est le temps, c'est-à-dire combien de temps tu vas traiter ce terrain comme ça.
Et alors, du coup, le mimétisme, c'est pas reporter le problème, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent, il y a Hulot qui a parlé de la stratégie des petits pas, mais il y a aussi pas mal de gens qui disent, par exemple, la voiture électrique, c'est reporter le problème, parce que finalement, étant donné les métaux rares qu'on met dans les voitures,
qu'on le veuille ou non, la voiture électrique a quand même une avancée majeure sur la pollution atmosphérique en ville, demande aux Chinois. Encore une fois, les progrès environnementaux se font effectivement de façon incrémentale, et l'argument qui consiste à pointer du doigt les défauts d'un progrès environnemental, il est complètement contre-productif, puisque c'est vraiment étape par étape qu'on va résoudre les problèmes.
Mais dans un vrai système biomimétique.
Oui, mais ce système-là se construira pas d'un coup. Je veux dire, tu peux pas monter 40 marches d'un coup sur l'édifice biomimétique. Effectivement, l'idéal, c'est d'avoir une usine complète où tout est retraité, etc. Et c'est ce vers quoi le biomimétisme tend. Mais jamais dans l'histoire humaine, on a posé des solutions comme ça, tombées du ciel, façon alien, où d'un coup, on résout tous les problèmes. Ça a toujours été une lutte lente. Même tu prends dans les problèmes politiques, tu prends les droits des femmes, tu prends la fin de la ségrégation, la fin de la l'apartheid. Même Lincoln, il n'a pas aboli l'esclavage dès le début de la guerre de sécession. On lui a beaucoup reproché, d'ailleurs, dans le camp dans le camp des républicains les plus extrêmes, ou dans le camp de Thaddeus Stevens, etc. avait dit, quand même, Lincoln, il faut abolir l'esclavage tout de suite. Puis Lincoln avait dit, ouais, si j'avais aboli l'esclavage tout de suite, espèce de con, les États du Nord qui continuaient à pratiquer l'esclavage, bien les États du Nord auraient fait sécession aussi, et là on aurait perdu la guerre. Donc c'est très sympa d'avoir une boussole, avait dit Lincoln à Thaddeus Stevens, sauf qu'une boussole te montrera pas où sont les marais, où sont les montagnes, et si tu te retrouves embourbé dans un marais, à quoi ça sert d'avoir une boussole? Donc c'est vrai de dire ça serait cool si on pouvait tout faire à la fois, sauf que dans un paysage de l'histoire humaine, il y a des marais, il y a des obstacles, et c'est très bien d'accueillir à leur juste valeur les petites améliorations. Tesla, par exemple, représente énormément d'améliorations, d'abord sur le plan managérial. Je rappelle que ces mecs, ils font leur bagnole aux États-Unis. Et que, alors, à une époque.
Ça fait plaisir à
travailler. Non, mais voilà, mais à une époque où tout le monde faisait du low cost et tout le monde parlait de délocalisation, etc., ils ont ouvert leur usine aux États-Unis, ils ont installé leur bureau à côté de leurs usines, ce qui est rarissime. Ils ont beaucoup moins de pièces dans leur bagnole. C'est la société qui recycle le mieux ses batteries. Ça, c'est un fait. Ils progressent aujourd'hui dans l'utilisation des batteries. Le moteur électrique est infiniment plus rentable que le moteur thermique en termes de rendement. Les kilowattheures consommées dans un moteur électrique sont restituées en mouvement, en travail, bien davantage que dans un moteur thermique. C'est un énorme progrès sur la consommation énergétique. Et encore une fois, moi qui suis né asthmatique, je peux t'assurer que je préfère largement une ville où les pots d'échappement, où les émissions sont reportées dans un endroit où il y a peu de population, que dans un endroit où, par définition, il y a la plus forte densité d'habitants au kilomètre carré. Encore une fois, c'est loin d'être parfait, mais rien n'est parfait en ce bas monde. Hélas, c'est un peu la condition humaine que d'être entouré de choses imparfaites. Donc il est tout à fait tautologique et futile de pointer du doigt les imperfections de quelque chose qui améliore les choses dans l'ensemble. Alors maintenant, bon, sur la consommation énergétique, tu vois, ça reste un problème de connaissance. Je te rappelle qu'un kilo de boue a l'énergie de masse de la consommation électrique annuelle, mondiale. C'est simplement parce qu'on ne maîtrise pas encore la fusion nucléaire, qu'on ne peut pas produire cette énergie de façon propre. Il y aurait d'autres solutions aussi. Il y a bien sûr l'énergie solaire qui est surabondante et sous-exploitée. Et il y a tout un tas d'autres formes d'énergie. La Chine s'y met, parce que la Chine, tu sais, quand on dit vive la Chine, on dit Zhongguo Wansui. Zhongguo Wansui, littéralement, ça ne veut pas dire vive la Chine, ça veut dire la Chine pour 10 000 ans. Donc les Chinois, ils pensent à 10 000 ans. Effectivement, c'est une civilisation qui a une continuité de 5 000 ans. C'est un peu comme si l'Égypte était encore là aujourd'hui dans son état civilisationnel du temps d'Hatshepsut, et du coup, automatiquement, ils pensent très long terme. D'où le Xi Jinping, etc., qui pose ses réformes constitutionnelles pour pouvoir rester le plus longtemps.
Tu penses que du coup, il faut une dictature
de l'écologie. Même de l'écologie, ça veut dire dictature.
C'est-à-dire qu'on impose des choses.
Qui impose? Qui décide ce qui est bien?
Quand la Chine dit plus aucun scooter, si ce n'est électrique à Shanghai.
C'est parce qu'ils sont 1,3 milliard et que pour l'instant, on n'a pas trouvé de moyens. Comme disait Brzezinski, aujourd'hui, il est plus facile de tuer 1 million de personnes que de gouverner 1 million de personnes. Et les Chinois, si je voulais faire de l'humour noir, ils ont essayé les deux. Et en fait, effectivement, la Chine, bon, tu sais, c'est un pays très particulier avec son histoire d'unité, de désunion. L'empire longtemps uni doit se diviser, puis l'empire longtemps divisé doit s'unir. Et c'est l'ADN politique chinois qui est de cette nature-là. Et c'est un débat encore aujourd'hui de savoir si la Chine pourrait fonctionner avec un système de démocratie directe. Je ne parle pas de démocratie de façade comme ça peut exister un peu trop souvent dans notre monde à nous. Moi, vivant en Suisse, évidemment, je sais ce que c'est qu'une démocratie réelle. Et je vois tout un tas de différences avec d'autres pays qui prétendent être des démocraties et qui n'en sont pas dans les faits. Mais dictature écologique, non. Je n'y crois pas, ça. Je pense que ça serait bien pire. Tu sais, un des problèmes majeurs en politique, Et tu peux juger la maturité politique de quelqu'un au fait qu'il croit que le bien et le mal, ça se décide aux intentions. Alors qu'en fait, il n'y a rien de pire que ça. Tu prends l'exemple du communisme. Bon. Le communisme, par définition, même si Karl Marx disait la définition du communisme, c'est l'abolition de toute propriété, mais l'autre définition que donne Karl Marx du communisme, c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Tu ne peux pas critiquer ça, c'est superbe.
Bon. Ils ont tué plein de gens, Hitler.
Et ils ont ça, en fait, effectivement, des gens qui se sont prétendus communistes et qui ont représenté le communisme pendant 90 bonnes années, ont fait le plus grand nombre de morts de toute l'histoire humaine, de morts à responsabilité humaine en tout cas.
Ils ont brûlé 3-4 bouquins aussi.
Et exactement, alors, et puis des catastrophes écologiques majeures comme l'assèchement de la mer d'Aral, etc. Et si tu veux, alors pourquoi, si on regarde dans les faits, parce que de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, ça marche très bien avec les Indiens. Les Indiens faisaient ça. C'était pas centralisé, il n'y avait pas de gouvernement central. Pourquoi ? Parce que de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, ça marche quand celui qui a des moyens connaît celui qui a des besoins et qui donne de façon volontaire. Et surtout, dans une société indienne, quand tu as quelqu'un qui a les moyens, c'est-à-dire quelqu'un qui va chasser 2 bisons par jour plutôt qu'un, quand il chasse 2 bisons, petit un, c'est pas considéré comme un ennemi du peuple. En URSS, c'était considéré comme un bourgeois, il était exécuté. Donc déjà, c'était pas un héros, c'était un ennemi. Deuxièmement, quelqu'un qui ramène 2 bisons, il va pas les bouffer tout seul de toute façon, donc c'est le premier à vouloir le donner. Et c'est un héros, premièrement, et deuxièmement, c'est le premier à vouloir le donner, il est volontaire pour ça. Donc, volontaire et héros, là, ça marche. Et puis, troisièmement, il connaît directement la personne à qui il le donne, donc là, ça marche encore mieux. Alors que, bon, dans le système soviétique, ça marchait pas du tout comme ça. T'avais l'État qui te le prenait, qui assassinait celui qui chassait métaphoriquement les 2 bisons. Donc, automatiquement, la saison suivante, il les chassait plus. Et tu te retrouves avec tout un tas d'excellentes intentions. Alors, outre le fait que d'un point de vue purement psychologique, n'importe quel sage va comprendre que si tu incrémentes un système, si tu implémentes, un système qui est basé sur l'idée de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, qu'est-ce qui va se passer? Si tu déclares des moyens, on va te les prendre. Si tu déclares des besoins, on va te donner. Du jour au lendemain, la totalité de la population va déclarer des besoins et personne ne va déclarer des moyens. Et tu vas te retrouver donc avec un pays appauvri qui ne fait que déclarer des besoins et jamais déclarer de moyens. Bon. D'autant plus que quand tu déclares des moyens, il se peut que non seulement on te les prenne, enfin ça c'est pas il se peut, c'est certain, mais il se peut aussi qu'on t'exécute. Alors, si tu veux, l'aventure communiste, elle est partie des meilleures intentions du monde. Et puis, elle a lamentablement échoué dans son ensemble, avec un coût humain absolument exorbitant. Moi, j'ai vécu dans d'anciens pays communistes, j'ai la nationalité d'un ancien pays communiste, à savoir l'Algérie, qui a été communiste de façon, très sincère. J'ai vécu donc en Ukraine. Et je peux te dire que ce sont des pays qui sont les premiers à avoir tiré les leçons de cette aventure-là. Donc il faut se garder dans la transition écologique de vouloir faire un gouvernement d'intention. Il faut faire un gouvernement de résultats. Il faut juger l'arbre à ses fruits. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux de Günther Polyev. C'est du résultat. Ça marche. C'est pas un théoricien. Certes, il a tiré des théories de son expérience, mais il n'est pas parti de ses théories. Il est parti de son expérience. Et ça fonctionne. Les résultats sont là. Et c'est pas pour rien que ces fables pour les enfants sont au programme obligatoire des écoles maternelles en Chine.
C'est clair, c'est difficile à critiquer Günther Polyev, je trouve.
C'est assez dur, effectivement. Il y en a qui le font, parce que de nos jours, on critique tout et n'importe quoi, mais effectivement, pour moi, Günther, c'est un des trucs les plus solides, un des penseurs, et puis justement, un des acteurs les plus solides de notre époque.
Et alors du coup, je suis désolé, je vais arrêter cette conversation qui est passionnante, mais le temps file. Ce podcast s'appelle Vlan, donc à quoi ou à qui ou... Tu claquerais la porte aujourd'hui?
Alors moi, j'aime bien claquer les portes, tu vois. Et
là,
j'étais à la Singularity University il n'y a pas longtemps.
À San Francisco?
Et à San Francisco, parce que j'y ai fait une conférence. Et un des cadres de la Singularity University disait « Je pense que mes enfants grandiront sans diplôme. » Et là, je pense qu'il a tout à fait raison. Moi, j'ai pu constater dans le système éducatif français, je pense que ma pire erreur a été de faire mes études en France. Et alors, j'ai claqué la porte de l'école centrale où j'enseignais. J'y ai enseigné pendant 7 ans et j'y ai fait de la recherche. Et tu vois, j'y ai enseigné Et j'y ai fait de la recherche, et puis tu vois, pour un tiret entre enseignant-chercheur, je me suis fait attaquer pour ça, alors que là-bas, j'avais dirigé, bien sûr, 20 thèses de master et puis une thèse de pharmacie. Mais ce système-là, le système des grandes écoles en France, qui est un système mourant, qui est un système vraiment sous perfusion étatique, aussi bien de reconnaissance que d'argent, mais qui fonctionne pas et qui échoue année après année, ce système-là, j'en ai claqué la porte. Je travaille en Suisse, qui est un pays, bon... Je suis obligé de le reconnaître infiniment plus sérieux, aussi bien sur le plan de la recherche que de l'éducation que la France. Ça, c'est quelque chose dont je peux claquer la porte. Mais au-delà de ça, si tu veux, les diplômes. Tu vois, j'ai beau avoir 3 doctorats, je veux dire, je peux claquer la porte des diplômes. Je m'entoure, moi, uniquement de personnes qui ont été éprouvées par la vraie vie. Ils peuvent avoir des diplômes ou pas, mais mes collaborateurs sont des gens, systématiquement, qui ont été éprouvés par la vraie vie. Et si, pardonne-moi de l'expression, mais si c'est des petits cons qui n'ont jamais connu d'épreuve, qui n'ont aucune cicatrice, ça c'est ce que dit très bien Nassim Nicolas Taleb, le grand probabiliste qui a écrit Le Cygne Noir, etc. Eh bien, si ce sont des gens qui n'ont aucune cicatrice, qui n'ont jamais joué leur peau, ils peuvent avoir tous les diplômes qu'ils veulent, je n'ai aucun intérêt pour eux et jamais ils ne travailleront avec moi.
Et du coup, j'ai une dernière question parce que tu parles de diplôme et d'éducation. Je sais pas si tu as vu, mais Harari, il sort un bouquin là.
Oui, Homo Deus.
Non, le suivant. Le suivant. 21 leçons ou 21 conseils pour le 21e siècle, je crois.
Ah non,
j'ai pas le titre encore. Ouais. Mais bref, ce qu'il dit, c'est que dans un monde où la connaissance est accessible partout.
Oui, le diplôme, c'est mort.
Et que du coup, ce qu'on doit éduquer aux enfants, c'est surtout du savoir-être et du savoir-évoluer dans un monde qui bouge.
Non, mais il faut être très clair. Tous les vieux brontosaures et les jeunes, malheureusement, les jeunes vélociraptors qui essaient de devenir comme eux, il y en a plein. C'est assez triste de voir des gens qui sont jeunes physiquement, mais qui ont 2000 ans d'un point de vue intellectuel. Eh bien, tous les vieux brontosaures ici, notamment en France, tu vois, qui ont fait leur carrière sur ce système-là, peuvent absolument pas envisager ce monde. Et c'est de la même façon, si tu veux, qu'un gamelin, le bien nommé, un major de Saint-Cyr, le brave homme, a conduit la France à l'échec le plus lamentable et le plus retentissant en 40, parce que Gamelin, si tu veux, il pensait tranché. Pétain pensait tranché. Tous les gros dinosaures de la Première Guerre mondiale pensaient tranché à une époque où il y avait des moteurs avec des tanks qui pouvaient aller à 40 km/h sur route, 50 km/h sur route pour certains, et que la tranchée, c'était fini. Bon, tous ces gens-là ont conduit un pays entier à sa perte parce qu'ils pensaient comme des dinosaures. Hélas, hein, dans l'enseignement supérieur et la recherche en France, cette pensée prédomine totalement parce que les bureaucraties mettent énormément de temps à s'adapter à la vraie vie. C'est le principe d'une bureaucratie que de s'isoler du monde réel et d'être inadapté, inepte, hein, d'un point de vue purement social, je veux dire, un petit peu comme un membre on en a tous un, tu vois, un membre de notre famille ou notre cercle social qui est un peu inadapté, dont on a pitié parce qu'il est, malheureusement, on lui donne pas le pouvoir, tu vois. Là, les bureaucraties ont le pouvoir et elles sont inadaptés. Alors ce changement, soit il se fera par rupture, c'est-à-dire bon, il y a le Titanic qui va couler, puis tous les gens qui ont 5 gallons sur le Titanic, ils vont couler avec, mais ça va être dramatique et il y aura des morts. Soit les gens vont se rendre compte, ils vont commencer à jeter les canots à la mer, ils vont se rendre compte qu'il faut quitter le Titanic, même s'ils ont 5 gallons sur le Titanic, il va falloir qu'ils rament comme tout le monde. Ça, c'est malheureusement ou heureusement le vrai monde qui nous arrive. Ce vrai monde sera effectivement sans diplôme, j'en suis profondément convaincu. Donc c'est à ça que je claquerai la porte en premier.
Super. Merci beaucoup.
Merci à toi.